Enzo, est-ce que tu peux juste, en une petite minute, te présenter? T'es à quelle école? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça, etc.
Ah, donc, je m'appelle Enzo. Je suis en quatrième sciences sociales à la Vallée Bailly à Braine-l'Alleud. Cette semaine, ça s'est très bien passé. J'ai fait le stage avec le gérant de la radio Alma, qui s'appelle David. On a appris plein de choses. On a appris le micro-trottoir. J'ai été au parc de forêt faire des micro-trottoirs avec des gens.
Ah, génial.
On a été à XL aussi, faire un micro-trottoir.
Ok. Où ça, XL?
Sur quel sujet?
Trois
questions en même temps.
Il y avait plusieurs questions, c'était souvent sur le sport. Je demandais aux gens quel sport ils pratiquaient. Ou après, je leur demandais quelle équipe ils supportaient. Je demandais s'ils regardaient, par exemple, régulièrement du foot. Et plein de choses comme ça. Et j'ai fait une interview aussi sur une kiné du sport. Mais elle qui est spécialisée en femmes.
Mmh. C'est ce qu'on va écouter, c'est ce que tu as fait.
C'est exactement ce qu'on va écouter.
Ok, génial. T'as quel âge, Enzo?
J'ai 15 ans.
Ok, 15 ans.
Bientôt 16.
Ok. Ah bah t'as une bonne voix pour la radio, si jamais t'as envie d'en faire. Enfin, ça c'est mon avis, je sais pas ce que vous en pensez les autres.
Totalement d'accord.
Cool.
Ouais, super. Allez, on s'écoute ça.
Bonjour. On parle souvent du mal du siècle pour le dos. Entre le télétravail et les écrans, voyez-vous de nouvelles douleurs apparaître chez des patients de plus en plus jeunes? Et comment peut-on inverser la tendance au quotidien?
Alors oui, en effet, c'est vrai qu'on a eu, ça fait quelques décennies qu'on en parle, de toutes ces personnes qui ont mal au dos parce qu'ils passent des heures devant leur ordinateur. Et c'est vrai qu'il y a une énorme prévention qui a été mise en place, pas mal de procédures du travailleur, du bien-être du travailleur en général, et une plus grande prévention aussi. Donc c'est vrai que moi, je vois de moins en moins de personnes plus âgés qui viennent se plaindre de ça, ce qui est vraiment très positif. Mais c'est vrai que, par contre, j'ai de plus en plus, à l'inverse, de plus en plus de jeunes qui viennent chez moi et qui me disent « Ah, j'ai vraiment mal dans le haut du dos » et ils ont des postures qui sont plutôt avec des épaules arrondies vers l'avant, une nuque un petit peu, un menton un peu rétropulsé, antépulsé plutôt, pardon. Et en effet, c'est parce qu'ils passent de nombreuses heures à l'école, ils sont 8 heures assis, 9 heures parfois, et puis ils rentrent à la maison, ils sont fatigués, ils scrollent sur leur téléphone, ils sont derrière leurs écrans un peu... tout le temps libre qu'ils ont. Et c'est vrai que c'est pas tellement un problème de posture, c'est plutôt un problème de mouvement. C'est le fait de pas bouger. Le corps, il n'est pas fait pour rester absolument immobile. Hein. À la base, on est des animaux, on est des chasseurs, on est fait pour bouger. Et depuis quelques décennies, on se retrouve à être dans des situations assez sédentaires. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour inverser cette tendance? C'est en fait de diminuer déjà le temps d'écran. En fait, c'est chez les enfants, en tout cas à l'école, on ne peut pas faire des miracles, mais quand ils rentrent, en fait, il faudrait que les enfants puissent s'ennuyer, qu'ils fassent autre chose, qu'ils aillent découvrir la nature, qu'ils fassent du sport, qu'ils interagissent socialement et qu'ils se retirent de leurs écrans. D'autres choses qu'on peut faire, moi, ce que je conseille à mes patients qui viennent en effet pour des douleurs liées un peu à leur sédentarité, c'est, moi, je leur dis, au boulot, il faut essayer de bouger, il faut se lever toutes les 45-60 minutes. C'est d'aller remplir sa gourde d'eau, pas la fontaine d'à côté, mais celle de l'étage du dessus. C'est vraiment, c'est marcher, puis varier les assises aussi. Moi, je leur dis, c'est très bien d'avoir la chaise ergonomique et tout ça, mais ça peut être une idée aussi de venir s'asseoir sur des Swiss balls, les ballons de yoga. Parce que là, en fait, on est toujours en mouvement. Aujourd'hui, il y a aussi des bureaux qu'on peut lever et descendre, et donc venir se mettre debout derrière son bureau, voire même marcher. Il y en a qui mettent des tapis sous leur bureau. Donc tout ça, c'est des choses qu'on pourrait faire pour y remédier. Ouais.
Pourquoi avons-nous cette fâcheuse habitude de ne consulter que lorsque la douleur devient insupportable? Quel conseil donneriez-vous pour apprendre à écouter son corps avant d'atteindre le point de rupture?
Je pense déjà qu'on est dans une société de médecine curative et pas une médecine préventive. Donc je crois qu'il y a déjà de ça. Et puis je pense que l'humain, il a tendance un peu à ignorer son corps. Il se dit « oui, c'est pas grave, ça va passer. Oui, ça va aller mieux, c'est rien », et il minimise un petit peu. Je pense que ça, c'est une des raisons. Je pense aussi l'autre, que, en tout cas dans le cadre de sportifs, de sportifs tout court, ou même de personnes qui sont très drive vers l'efficacité, vers des projets professionnels plus ou moins ambitieux, entre guillemets, ils ont leur objectif en tête, et être blessé ou devoir se diminuer un petit peu, c'est un peu repousser l'objectif. Ça leur fait un peu peur. Donc c'est, je pense, aussi une des raisons pour laquelle, tant les sportifs que monsieur, madame, tout le monde pourraient oublier un petit peu leur corps.
Vous soignez des athlètes de haut niveau. Mais pour monsieur et madame tout le monde, le sport est parfois perçu comme une contrainte. Comment transformer l'activité physique en un véritable outil de santé durable plutôt qu'en une source de blessures?
Déjà, il faut associer le sport au plaisir et à la santé. On est dans une société où tout est performance. tout, que ce soit au boulot ou dans le sport, c'est faut gagner le match. Il faut, je pense qu'il faut un peu remettre l'église parfois au milieu du village et se dire, ben voilà, viens, on prend du plaisir et on le fait en fait pour se faire du bien. Et donc moi, ce que je donne comme conseil à mes patients, parce que j'ai aussi des patients hein, qu'il faut motiver et qui ont du mal à finalement trouver du temps pour faire leur sport, c'est dire, ben premièrement, c'est tu bookes un moment dans ton agenda avec toi-même. Et tu peux pas te donner l'option d'abandonner ou de pas le faire, ou d'annuler. T'as pas le choix, t'y vas. Je pense aussi que ça peut être intéressant de tourner le sport en quelque chose de social. C'est d'aller rejoindre des copains, c'est d'aller courir avec des copains, c'est de se dire « Ah, on a envie de commencer le tennis à 4, viens, on prend des cours de tennis à 4 ». Je pense que c'est une chose, c'est motivant d'aller voir des copains ou de rencontrer des gens au travers du sport. Ça aide à se lever quand on n'en a pas forcément envie. Et puis je pense aussi que ça te tient un petit peu responsable aussi du sport de l'autre. Et donc en fait, c'est une façon qui te permet finalement de ne pas avoir du mal à y aller. Oui, je pense aussi que ce qui est important, c'est d'arriver à commencer petit. On a tendance à être aussi, à nouveau, trop dans l'ambition et de se dire « je vais aller 4 fois par semaine à la salle » ou « je vais aller 4 fois par semaine au foot, je vais aller faire 4 fois par semaine ceci ». En fait, commencez petit. Faites une ou deux petites séances de 20-30 minutes par semaine et puis augmentez progressivement. Faites-en une habitude plutôt que quelque chose d'obligatoire et de pesant. Je pense qu'il faut aussi le faire pour les bonnes raisons. Si c'est pour le physique, il y a 9 chances sur 10 finalement qu'on abandonne et que la motivation s'en aille. Or, si c'est en fait pour prendre du plaisir, et si c'est une habitude, en fait, il n'y a plus de raison d'abandonner, quoi.
La santé physique, c'est joue dès l'enfance. Si vous avez une baguette magique pour changer une seule chose dans l'éducation physique, à l'école, ou dans les habitudes de famille, ce serait quoi?
Alors déjà, je rajouterais un cours d'éducation physique à l'école. Vous me direz, mais il y a déjà un cours d'éducation physique. Mais en fait, c'est plutôt un cours de sport. On découvre plein de sports, mais on n'y découvre pas forcément comment notre corps fonctionne. Et je pense qu'aujourd'hui, on sait énormément de choses. La géographie, les langues, les maths, les sciences, on sait mille et une choses. Mais en fait, on ne sait rien sur notre corps, qui est pourtant le vaisseau de notre vie. C'est quand même au travers de lui qu'on découvre le monde. Et pourtant, on ne sait rien. On ne sait rien de notre corps et ça serait vraiment la plus belle des préventions. Je suis sûre qu'il y a énormément de blessures ou de maladies qui pourraient être diminuées s'il y avait plus de prévention déjà à l'école. Et puis bien sûr, je l'ai dit avant, je pense qu'il faut réduire le temps d'écran et laisser les enfants s'ennuyer en fait. Les obliger à aller dans le jardin, les obliger d'aller promener le chien, faire 4 blocs de plus, c'est d'aller voir des copains, c'est de faire un peu autre chose, quoi.
Aujourd'hui, on est inondé de conseils sur les réseaux sociaux et on hésite souvent entre un kiné, un ostéopathe ou même un coach sportif. Selon vous, quel est le critère numéro 1 pour reconnaître un bon accompagnement et éviter de confier son corps à n'importe qui?
Alors pour moi, le professionnel de santé qui convient le plus à une personne, ou en tout cas le meilleur professionnel de santé, c'est d'abord parce qu'il s'adapte à la personne qu'il a face à lui, tant dans son discours que dans ses choix de thérapie, que dans ses choix d'exercice, dans le cas de la kiné du sport. Je pense aussi que, en tout cas pour un bon kiné, c'est quelqu'un qui explique ce qu'il fait, qui justifie, qui conscientise le patient et en fait qui le rend acteur de son corps, de sa rééducation, de son traitement, de sa vie finalement. Je pense que ça, c'est la chose la plus importante. Ouais.
Dans les sports de haut niveau, on pousse le corps pour gagner. Mais dans la vie de tous les jours, on le pousse souvent pour ne pas s'arrêter de travailler. Est-ce que votre rôle, c'est aussi de savoir dire stop à un patient qui veut reprendre trop vite, au risque de transformer une simple gêne en un handicap durable?
Exactement. C'est pour 65% de mes patients, je dois plutôt les ralentir que de les motiver. Ça, c'est une réalité, en tout cas en kiné du sport. Mais j'ai aussi des patients qui viennent me voir, qui ont cette mentalité-là aussi pour le boulot. Et c'est vrai que ce que j'essaye de leur faire comprendre, c'est que parfois, ralentir pour mieux repartir, c'est un peu... C'est bateau, mais c'est une réalité. Dans le cadre de la kiné du sport, ou dans le sport en général, j'aime bien expliquer à mes patients, écoute, c'est très bien de vouloir faire performer, mais c'est pas que l'entraînement qui va te permettre de performer. C'est pas que le travail qui va te permettre de performer. C'est tout ce que tu fais autour. C'est la récupération, c'est le sommeil, c'est l'alimentation, c'est la nutrition, c'est les interactions sociales, c'est tout ce qui fait, en fait, de toi une personne entière. Et si t'as pas ça, et que tu ne penses que à ton objectif et que tu te dis que juste entraîner ou juste travailler à fond, c'est ce qui va te permettre de performer, en fait, ils ont tout faux. Et donc, Oui, en effet, c'est un discours que je dois très souvent tenir auprès de mes patients.
Aujourd'hui, on a tous des montres connectées ou des applis de santé. Est-ce que ça vous aide à suivre vos patients ou est-ce que ça leur donne une fausse confiance qui les empêche de consulter un vrai pro ?
Oui, alors les dispositifs, que ce soit les gadgets comme les montres, les bagues, parce qu'il y a aussi des bagues connectées, les téléphones, les applications, etc. En fait, c'est super. Mais c'est super parce que ça permet en fait d'avoir un suivi avec soi-même. Mais moi aussi, ça me permet parfois aussi de me rendre compte aussi de ce que mon patient fait. Ça me permet d'avoir un meilleur suivi, ça c'est vrai. Mais bien sûr, ça ne remplacera jamais une personne qui a fait tant d'années d'études et qui est spécialiste, expert en santé. Je pense que ces outils-là sont extrêmement pertinents à utiliser, mais c'est en complément d'une consultation avec les différents professionnels de santé.